Le renard et la poule par Wilkie Collins. Extrait du registre correspondance de la police de Londres. Francis Thakestone, inspecteur en chef de la police métropolitaine, au sergent Bulmer, Londres, 4 juillet 1800 et quelques. Sergent Bulmer. La présente vous informera que votre concours est requis dans une affaire importante, laquelle réclame toute l'attention d'un agent expérimenté. Vous me ferez le plaisir de confier au jeune homme porteur de cette lettre la suite des recherches où vous êtes engagé en ce moment. Vous lui direz, tel que vous les avez notées, toutes les circonstances du vol que vous êtes chargé d'éclaircir. Vous le mettrez au courant de la marche que vous avez suivie et, s'il y a lieu, des indices déjà obtenus contre la personne ou les personnes par qui l'argent a été volé. Vous le laisserez ensuite tirer ce qu'il pourra de l'affaire maintenant entre vos mains. Il doit avoir l'entière responsabilité de la chose et tout l'honneur du succès s'il réussit. Voilà quels sont les ordres qu'il m'est enjoint de vous communiquer. Et maintenant un mot entre nous sur cet étranger qui va vous remplacer. Il se nomme Matthew Sharpen. On veut lui fournir l'occasion de franchir d'un seul bond tous les grades inférieurs, en supposant qu'il soit de force à le faire. Vous me demanderez naturellement d'où lui vient ce privilège. Je puis seulement vous dire qu'il a des protections toutes particulières en certains hauts parages. Vous et moi ferons aussi bien de n'en parler qu'à voix basse. Ancien clerc d'Aboué, il est aussi satisfait de sa personne que sa personne est désagréable à voir. Si nous le prenions au mot, il quitterait son ancien métier tout à fait spontanément, sans autre motif qu'une préférence marquée pour le nôtre. Vous ne le croirez pas plus que je ne l'ai cru. Mon idée à moi, c'est qu'il aura trouvé moyen de s'immiscer plus que de raison dans les affaires particulières de quelques clients, ce qui, tout en rendant difficile de le conserver dans le personnel de l'étude, lui donne désormais assez de prise sur son patron pour faire de son renvoi pur et simple une chose dangereuse, sinon impossible. À mon avis, donc, les avantages inusités qu'on lui offre parmi nous sont destinés à lui fermer la bouche. Quoi qu'il en soit, Mr. Matthew Sharpen doit être chargé de l'affaire que vous avez dirigée jusqu'à ce jour. Et s'il l'amène à bonne fin, nous sommes sûrs de voir son vilain museau à demeure parmi nous. Je vous tiens au courant de tout ceci afin que vous n'alliez pas vous faire de tort en vous mettant à dos le nouvel arrivant. Tout à vous, F.R. Thingstone. Mr. Matthew Sharpen, l'inspecteur en chef Thingstone, Londres, 5 juillet. Cher monsieur, ayant obtenu du sergent Bulmer tous les renseignements qui m'étaient nécessaires, je demanderai la permission de vous rappeler certaines instructions que j'ai reçues relativement au compte-rendu de mes futures démarches. Vous avez été chargé de l'examen de mes rapports avant leur envoi aux autorités supérieures, afin, m'a-t-on dit, que je puisse au besoin avoir le bénéfice d'une expérience supérieure à la mienne. Précaution qui, j'ose le croire, sera parfaitement inutile. Les circonstances extraordinaires de l'affaire dont je suis maintenant chargé rendent impossible que je m'éloigne, ne fût-ce même que pendant une heure, des lieux où le vol a été commis. Je me vois donc privé de tout rapport personnel avec vous, jusqu'à ce que j'aie pu au moins ébaucher la découverte du voleur. De là découle pour moi la nécessité de mettre par écrit certains détails qui parfois gagneraient à être communiqués verbalement. Tel est, si je ne me trompe, la position exacte dans laquelle nous sommes placés l'un vis-à-vis de l'autre. Je le constate afin que, dès le début, nous nous comprenions bien tous les deux, et j'ai l'honneur d'être votre obéissant serviteur, Matthew Sharpen. L'inspecteur en chef Thakestone à Mr. Matthew Sharpen, Londres, 5 juillet. Monsieur, vous avez commencé par perdre inutilement votre temps, votre papier et votre encre. Nous avions tous les deux, j'imagine, la notion très exacte de nos rôles respectifs, lorsque je vous envoyais porter ma lettre au sergent Bulmer. Ce n'était donc pas la peine d'écrire pour entrer là-dessus dans des redites oiseuses. Soyez assez bon dorénavant pour employer votre plume d'une façon plus utile. Vous avez maintenant à me rendre compte par écrit de 3 objets distincts. Premièrement, vous me ferez un rapport sur les instructions reçues par vous du sergent Bulmer, de manière à nous prouver que rien ne vous ayant échappé, vous êtes bien complètement au courant de toutes les circonstances de l'affaire qui vous a été confiée. Secondement, vous nous informerez de vos projets. Troisièmement, vous devrez nous mettre au courant du plus petit résultat obtenu, si toutefois vous n'en obtenez aucun, jour par jour et au besoin, heure par heure. Voilà quel est votre devoir. Quant à ce que le mien peut être, lorsque j'aurai besoin que vous me le rappeliez, je vous écrirai pour vous en prévenir. D'ici là, je reste votre tout dévoué, F.R. Thingstone. Mr. Matthew Sharpin, à l'inspecteur en chef, Thingstone, Londres, 6 juillet. Monsieur, vous êtes un homme mûr et par cela même naturellement enclin à quelque jalousie envers ceux qui, comme moi, sont à la fleur de l'âge et en possession de toutes leurs facultés. Ces circonstances étant données, il est de mon devoir de vous témoigner certains égards et de ne pas me montrer plus sévère que de raison pour vos légers défauts. Je renonce donc complètement à me fâcher du ton général de votre lettre et passerai l'éponge sur le souvenir de votre maussade épître. Bref, inspecteur en chef Thingstone, je vous excuse et j'en viens à notre affaire. Mon premier devoir, dites-vous, est de vous adresser un rapport exact sur les instructions que j'ai reçues du sergent Bulmer. Les voici à votre service et telles que je les ai comprises. Au numéro 13 de Rutherford Street se trouve une boutique de papetier tenue par un nommé Yatman, homme marié mais sans enfant. Les autres habitants de la maison, outre Mr. et Mrs. Yatman, sont un jeune célibataire nommé Jay, qui occupe au second la chambre donnant sur la rue, un commis qui couche dans une des mansardes, et une servante dont le lit est placé dans l'arrière-cuisine. Toutes les semaines, à jour fixe, une femme de journée vient prêter son aide à cette servante. Voilà les seules personnes qui, en temps ordinaire, ont un libre accès dans la maison. Mr. Yatman, pendant plusieurs années, avait fait d'assez bonnes affaires pour réaliser ce que les gens dans sa position considèrent comme une jolie aisance. Il a essayé, malheureusement pour lui, d'augmenter sa fortune par la spéculation. Ses placements furent mal répartis, la chance l'abandonna, et il y a 2 ans environ, sa ruine se trouva consommée. Du naufrage de sa fortune, il n'a pu sauver qu'une somme de 200 livres sterling. Bien que Mr. Yatman, en retranchant toute dépense superflue, et en abandonnant la plupart de ses habitudes de luxe ou de confort, ait fait tout son possible pour se maintenir dans les étroites limites de son revenu, il n'a jamais réussi à réaliser aucune économie sur le produit de son commerce. Ses affaires vont mal depuis quelques années, la réduction des prix leur ayant fait tort. Par suite de ces diverses circonstances, la semaine dernière encore, Mr. Yatman, en fait d'argent comptant, ne possédait que les 200 livres ci-dessus mentionnés comme l'unique débris de son ancienne fortune. Cette somme était placée dans une respectable maison de banque. Il y a 8 jours que Mr. Yatman et Mr. Jay, causant ensemble, la conversation tomba sur les difficultés matérielles qui assiègent de toutes parts le commerce actuel. Mr. Jay, dont l'emploi est de fournir aux journaux les éléments de leur chronique quotidienne, savoir le récit, un sous la ligne, des meurtres et des accidents baptisés faits divers, Mr. Jay donc, fit part à son propriétaire de certains bruits alarmants qui courent dans la cité sur la solvabilité des banques. Ces rumeurs étant déjà parvenues de plusieurs côtés jusqu'à Mr. Yatman, il ne put les entendre confirmer ainsi par son locataire sans se sentir amené au souvenir de ses anciennes pertes. Ce souvenir lui revint avec une telle force qu'il résolut de se rendre immédiatement à la banque pour en retirer ses fonds. Le jour touché à sa fin, et il arriva tout juste avant la fermeture des portes. On lui rendit un billet de banque de 50, 3 de 25, 10 de 10 et 6 de 5 livres. Son intention était d'employer l'argent qu'il venait de recouvrer à faire différents prêts aux petits marchands de son quartier, qui sont parfois dans de fort pressants embarras pécuniaires. Mr. Yatman pensait avoir trouvé là le placement le plus sûr et le plus avantageux de son argent. Il mit ses valeurs dans une enveloppe et les rapporta dans la poche du côté de son paletot. À peine rentré dans sa demeure, il demanda au commis de lui chercher un petit coffret en métal, dont on ne s'était pas servi depuis des années, et que Mr. Yatman se rappelait de voir exactement de dimension à contenir ses billets de banque. Tout d'abord, cette espèce de tirelire fut introuvable. Mr. Yatman appela sa femme pour savoir si elle se rappelait l'avoir serré quelque part. Cette question fut entendue par la servante qui montait à ce moment le plateau du déjeuner et par Mr. Jay qui descendait l'escalier pour se rendre au théâtre. La petite boîte fut enfin découverte par le commis. Mr. Yatman y logea ses billets, la cadenassa et la replaça dans la poche de son paletot d'où il n'en sortait guère qu'un petit coin, assez cependant pour qu'elle fût aperçue. Mr. Yatman, dans tout le cours de la soirée, ne bougea pas de sa chambre. Il ne vint pas de visite. À 11 heures, en se couchant, il plaça son petit trésor sous son oreiller. Lorsque sa femme et lui se réveillèrent, le lendemain matin, la boîte avait disparu. On mit immédiatement opposition au paiement des billets, mais jusqu'à ce jour, on n'a pu obtenir vent ni nouvelle de l'argent soustrait. Rien de plus clair que les circonstances de l'affaire en les limitant à ce qui vient d'être dit. Elles tendent toutes à prouver que le vol doit avoir été commis par quelques personnes de la maison. Les soupçons planent par conséquent sur la servante, sur le commis et sur Mr. Jay. Les deux premiers avaient entendu leur maître demander la boîte, mais ils ignoraient à quel usage celui-ci la destinait. Ils devaient naturellement conjecturer qu'on y mettrait de l'argent. L'un et l'autre d'ailleurs, la servante en desservant le thé, le commis en rendant les clés à son maître, après la fermeture du magasin, eurent l'occasion de penser, en voyant la boîte dans la poche de Mr. Yatman, qu'il avait l'intention de l'emporter avec lui dans sa chambre quand il irait se mettre au lit. D'autre part, il avait été dit à Mr. Jay, dans le courant de la conversation sur les banques, que son propriétaire y possédait un dépôt de 200 livres. Il savait aussi que Mr. Yatman l'avait quitté avec l'intention bien arrêtée d'aller retirer cet argent. Et depuis, en descendant l'escalier, il avait entendu réclamer la boîte en question. Il devait dès lors supposer que l'argent était rentré au bercail et que le coffret de métal servirait à l'abriter. Néanmoins, comme il sortit avant que la boîte fût trouvée et rentra seulement après le coucher d'un chacun, on ne saurait croire qu'il ait pu avoir une idée quelconque de l'endroit où, pour cette nuit, Mr. Yatman avait serré son argent. C'est donc par le plus grand des hasards, s'il est réellement l'auteur du vol, qu'il aura dirigé ses recherches du côté de la chambre à coucher plutôt que dans toute partie de l'habitation commune. À propos de cette chambre, quelques détails sont nécessaires sur la position qu'elle occupe dans la maison et sur l'accès facile qu'elle offre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La pièce en question, située au premier, donne sur la cour. Mrs. Yatman, d'un tempérament particulièrement nerveux, est sujette à bien des petites manies. Le feu, par exemple, lui fait une peur affreuse et elle se préoccupe volontiers des accidents qui pourraient arriver si, en cas d'incendie, elle se trouvait forcément retenue chez elle sans pouvoir s'enfuir. Son mari a donc pris l'habitude de ne jamais fermer à clé la porte de leur chambre à coucher. Ils conviennent de plus, tous les deux, qu'ils ont le sommeil très lourd. Le voleur n'a donc pas couru de grands risques, relativement parlant. Il n'avait qu'à tourner le bouton pour entrer dans la chambre. Et moyennant quelques précautions pour ne rien heurter, rien renverser, il n'avait pas à craindre le réveil des dormeurs. Ce détail est fort essentiel. Il corrobore la conviction où nous étions déjà que l'argent doit avoir été pris par un des habitants de la maison, le vol ayant pu être commis par des personnes qui n'ont ni la vigilance ni la finesse d'un voleur expérimenté. Voilà les faits racontés au sergent Bulmer lorsqu'il fut appelé à découvrir les coupables et à recouvrer, si faire se pouvait, les billets de banque perdus. Les enquêtes les plus minutieuses n'ont fourni aucune preuve de la culpabilité des gens sur lesquels tombait directement le soupçon. Leur conduite et leur langage, lorsqu'ils furent informés de ce qui s'était passé, semblaient témoigner énergiquement de leur innocence. Le sergent vit qu'il fallait s'en tenir à des recherches secrètes et à un rigide système d'observation. Il commença par recommander à Mr. et Mrs. Yatman de feindre la confiance la plus absolue à l'égard des personnes qui habitent sous leur toit. Puis, il se mit en campagne, épiant les allées et venues de la servante et cherchant à découvrir ses relations, ses habitudes et ses secrets. 3 jours et 3 nuits d'espionnage, exercés tour à tour et par le sergent lui-même et par des auxiliaires habitués à ces sortes d'investigations, suffirent pour lui prouver que ses soupçons contre cette fille n'étaient pas fondés. Les mêmes manœuvres furent ensuite employées à l'égard du commis. Il y eut là plus d'incertitude et plus de difficultés à vaincre pour prendre à son insu les renseignements qui pouvaient le disculper. Mais on en vint enfin à bout, et quoiqu'il n'y ait pas, pour ce qui le concerne, la même certitude qu'au sujet de la servante, il n'en existe pas moins de très fortes raisons pour supposer que le commis est innocent. La conséquence nécessaire de ces démarches est de ramener tous les soupçons sur Mr. Jay. Quand je présentais votre lettre de recommandation au sergent Bulmer, il s'était déjà occupé de ce jeune homme. Le résultat de l'enquête qui le concerne est jusqu'à présent des moins favorables. Mr. Jay a des habitudes irrégulières. Il fréquente les tavernes et semble intimement lié avec des gens de mauvaise vie. De plus, on lui sait des dettes criardes chez tous ses fournisseurs et il n'a pas payé son dernier terme à Mr. Yachtman. Hier soir, il est rentré en état d'ivresse et la semaine dernière, on l'a vu s'entretenir familièrement avec un boxeur de profession. Bref, Mr. Jay, qui s'intitule journaliste parce qu'il fournit quelques notes aux journaux, est un jeune homme qui a des goûts vulgaires et des façons peu convenables. Rien de ce qui a déjà été découvert sur son compte ne lui fait honneur sous aucun rapport. Vous êtes maintenant au courant des plus petits détails à moi communiqués par le sergent Bulmer. Je crois que vous n'y trouverez aucune omission, et je pense que malgré vos préjugés contre moi, vous serez forcé d'admettre que jamais exposé plus clair ne vous a été soumis. J'ai maintenant à vous dire quelles sont mes intentions aujourd'hui que l'affaire est entre mes mains. Il est évident, en premier lieu, que je vais reprendre les choses au point où le sergent les a laissées. Je me crois permis, après le témoignage favorable qu'il leur rend, de ne plus m'inquiéter ni de la servante ni du commis. Reste à décider, quand on aura obtenu de nouvelles preuves, si Mr. Jay est coupable ou non. Avant de considérer les billets comme perdus, il faut nous assurer que ce monsieur ne peut nous renseigner sur leur destinée. Voici le plan que j'ai adopté, avec la pleine approbation de Mr. et Mrs. Yachtman, pour découvrir si Mr. Jay est ou non le voleur. Je vais me présenter chez eux, aujourd'hui, en jeune homme qui cherche un logement. La chambre du second sur la cour me sera montrée comme étant à louer. Et je m'y installerai ce soir, affectant les dehors et le langage d'un jeune provincial qui vient à Londres pour tâcher de s'y faire une position. J'habiterai de cette façon la chambre contiguë à celle de Mr. Jay. Nous ne sommes séparés que par une mince cloison de plâtre. Il me sera donc facile de percer un trou dans un coin, ce qui me permettra d'entendre et de voir tout ce qui se passera chez lui quand ses amis le viendront visiter. Tant qu'il restera dans la maison, je serai à mon poste. Toutes les fois qu'il sortira, je serai derrière lui. En le guettant de la sorte, je crois que je puis d'avance regarder son secret comme découvert. Je ne me permettrai pas de pressentir ici ce que vous allez penser de mon plan de campagne. Il me paraît avoir l'inestimable mérite de joindre la sûreté à la simplicité. C'est donc avec toutes sortes d'espérances que je termine cette lettre et que j'ai l'honneur de me dire votre très obéissant serviteur, Matthew Sharpin. Du même au même, Londres, 7 juillet. Monsieur, comme vous ne m'avez pas fait l'honneur de répondre à ma dernière missive, j'en conclus qu'elle a produit sur vous, en dépit de vos préventions à mon égard, l'impression toute favorable que j'en attendais. Flatté, encouragé, démesurément peut-être, par l'approbation que manifeste votre éloquent silence, je continue à vous rendre compte de ce qui s'est passé pendant ces dernières 24 heures. Je suis désormais confortablement établi dans le voisinage immédiat de Mr. Jay, et je m'empresse de vous apprendre que j'ai pratiqué deux meurtrières, au lieu d'une, dans la cloison qui nous sépare. Ma gaieté naturelle m'a poussé à faire l'extravagance, bien pardonnable, de leur donner à chacune un nom spécial. J'ai baptisé la première mon observatoire et la seconde mon écoutoir. Le nom du premier trou s'explique de lui-même. Quant au second, il doit se sobriquer à un petit tube d'étain dont l'extrémité est insérée dans le trou de la muraille, tandis que l'autre aboutit à mon oreille lorsque je suis à mon poste de surveillance. De cette façon, tandis que je regarde Mr. Jay par mon observatoire, mon écoutoir me permet d'entendre tout ce qui se dit dans la chambre. Ma parfaite candeur, vertu que je possède depuis ma plus tendre enfance, me force à vous avouer que l'ingénieuse idée d'ajouter un écoutoir à l'observatoire déjà projeté me vient de Mrs. Yachtman. Cette personne, à la fois simple et distinguée, est entrée dans tous mes plans avec une intelligence et une finesse que je ne saurais trop louer. Mr. Yachtman se trouve tellement abattu par la perte qu'il a faite qu'il est tout à fait incapable de m'aider en quoi que ce soit. Mrs. Yachtman, qui lui est évidemment fort attachée, souffre de voir son mari dans cette triste position, bien plus que de la perte en elle-même, et l'activité qu'elle déploie provient du désir qu'elle a de l'arracher à l'état de prostration où il est tombé. L'argent, Mr. Sharpin, disait-elle hier soir, les larmes aux yeux, une stricte économie jointe à un travail assidu peut nous le rendre avec le temps. Mais c'est l'état pitoyable où je vois mon mari, qui me fait surtout désirer la capture du voleur. Je ne sais si je me trompe, mais lorsque je vous ai vu, j'ai senti l'espoir d'un succès rentrer dans mon cœur, et je crois que si le misérable qui nous a volés doit être découvert, ce ne saurait être que par vous. » J'acceptai ce compliment flatteur dans le même esprit qu'il avait dicté, intimement convaincu que tôt ou tard on m'en reconnaîtra digne. Laissez-moi maintenant en revenir à mes affaires, c'est-à-dire à mon observatoire et à mon écoutoir. J'ai passé quelques heures à regarder tranquillement Mr. Jay. Quoiqu'il reste rarement chez lui, d'après ce que m'a dit Mrs. Yatman, il n'a pas quitté sa chambre de toute la journée. Voilà pour commencer, quelque chose d'assez équivoque. Je dois ajouter de plus qu'il s'est levé tard ce matin, ce qui est toujours mauvais signe chez un jeune homme, et qu'une fois debout, il a passé fort longtemps à bâiller et à se plaindre d'un mal de tête. Comme les autres débauchés de son espèce, il n'a presque rien mangé pour son déjeuner. Son premier soin, en sortant de table, a été de fumer une pipe, une sale pipe de terre qu'un gentleman eût été honteux de porter à ses lèvres. La pipe finie, il a pris du papier, de l'encre, une plume, et s'est mis à écrire en poussant un gros soupir. Lui fut-il arraché par les remords que lui alléguait son vol, ou par la répugnance que lui inspirait son travail? C'est ce que je ne saurais vous dire. Après avoir écrit quelques lignes, que l'éloignement ne me permit pas de lire, il se renversa sur le dos de sa chaise et se prit à chantonner quelques airs populaires. Je reconnus « My Marianne »,« Robin Around » et « Old Dog Tray » parmi ces mélodies de carrefour. Reste à savoir si ce ne serait pas là des signes par lesquels il s'entendrait avec ses complices. Lorsqu'il se fut amusé quelque temps à fredonner ainsi, mon homme se leva et se promena dans la chambre, s'arrêtant de temps à autre pour confier une nouvelle phrase au papier posé sur le bureau. Quelques instants après, il s'arrêta devant une armoire fermée à clé et l'ouvrit. Je regardai de tous mes yeux, comptant bien sur quelques découvertes. Je le vis prendre avec toutes sortes de précautions sur une des tablettes un objet que je ne distinguais pas tout d'abord. Il se retourna. Ce n'était qu'une bouteille d'eau-de-vie. Ayant bu un petit verre de liqueur, ce paresseux vaurien s'étendit de nouveau sur son lit, et en moins de 5 minutes, il dormait profondément. Après l'avoir entendu ronfler pendant plus de 2 heures, je fus ramené à mon observatoire par un coup frappé à sa porte. Il se jeta hors de son lit et courut ouvrir avec une précipitation suspecte. Un très petit garçon, dont la figure était fort mal lavée, dit à peine entré, « Sauf respect, monsieur, ils n'attendent plus que vous. » Le gamin s'assit ensuite sur une chaise, les pieds ballants, et s'endormit tout d'un trait. Mr. Jay, blasphémant comme un païen, s'attacha une serviette mouillée autour de la tête et, réinstallé devant son papier, se mit à écrire aussi vite que ses doigts le lui permirent. De temps en temps, il se levait, allait tremper la serviette dans l'eau, la replaçait et se remettait à l'ouvrage. Ce manège dura bien 3 heures. Notre gaillard plia son manuscrit, réveilla l'enfant et le lui remit en l'apostrophant ainsi. « Debout, jeune marmotte, et pas accéléré en avant, marche. Si tu vois le patron, dis-lui de tenir l'argent prêt pour quand je passerai. » Le jeune drôle disparut avec une grimace d'intelligence. Je fus tenté un moment de suivre cette marmotte, mais après mûre réflexion, je trouvais plus sûr de guetter encore les allures suspectes de Mr. Jay. Au bout d'une demi-heure, il mit son chapeau et sortit. Naturellement, je mis mon chapeau et sortis aussi. En descendant l'escalier, je rencontrai Mrs. Yatman qui montait. Grâce à la bonté de cette dame, il était convenu d'avance entre nous deux que pendant que je remplissais l'agréable tâche de suivre partout Mr. Jay, elle profiterait de son absence pour fouiller parmi ses effets. Cette fois, il porta ses pas directement vers la taverne la plus proche et commanda de côtelettes de mouton pour son dîner. Je m'assis près de lui et pour mon dîner, je commandai de même 2 côtelettes de mouton. Nous étions dans la salle depuis peu d'instants, lorsqu'un jeune homme de mauvaise mine, installé en face de nous, tenant à la main son verre de porteur, s'approcha de Mr. Jay. Je fis semblant de lire le journal, mais j'écoutais de toutes mes oreilles. « Jack est venu s'informer de vous, » dit le jeune homme. « A-t-il laissé quelques commissions pour moi ?» demanda Mr. Jay. « Oui, répondit l'autre. Et il m'a chargé, dans le cas où je vous verrai, de vous dire qu'il désirait tout particulièrement vous rencontrer ce soir même et qu'il serait chez vous vers 7 heures. « C'est bien, dit Mr. Jay. Je rentrerai à temps pour le recevoir. » Là-dessus, le jeune homme de mauvaise mine acheva son porteur et, se disant très pressé, prit congé de son ami. Peut-être faudra-t-il employer ici le mot complice. À 6h25, dans les affaires importantes, une exactitude scrupuleuse est nécessaire, Mr. Jay acheva ses côtelettes et régla son compte. À 6h25, j'achevai mes côtelettes et payai ma note. 10 minutes plus tard, je rentrai dans Rutherford Street et j'étais reçu dans le corridor par Mrs. Yatman. La physionomie de cette charmante femme exprimait tant de tristesse et de découragement qu'elle me fit mal à voir. « Je crains bien, madame, lui dis-je, que vos recherches n'aient été infructueuses. » Elle secoua la tête et poussa un soupir si doux, si languissant, que sous mon honneur j'en fus tout troublé. Pendant un moment, j'oubliai mes préoccupations et je fus jaloux de Mr. Yatman. « Ne vous dérangez pas, madame, lui dis-je avec une sympathie qui sembla l'émouvoir. J'ai surpris une conversation mystérieuse. Je connais un coupable rendez-vous. J'attends beaucoup ce soir de mon observatoire et de mon écoutoir. Je vous en supplie, pas d'émotion. Mais je crois être à la veille d'une découverte importante. » Mon dévouement à ma mission prit alors le dessus et fit taire mes tendres sentiments. Un regard, un signe de tête, et je la quittai. De retour à mon poste, je trouvai Mr. Jay installé dans un fauteuil et digérant à loisir sa pipe à la bouche. Sur la table placée devant lui, ce prévoyant jeune homme avait disposé 2 verres, une carafe d'eau et une bouteille d'eau-de-vie. Il était alors près de 7 heures. Au moment où l'horloge sonna, l'individu répondant au nom de Jack fit son entrée. Il paraissait agité. Je suis heureux de dire même qu'il paraissait violemment agité. La joie d'un succès anticipé se répandit dans tout mon être. Palpitant d'émotion, je regardais par mon observatoire et vis ce Jack adorable, le héros de ces délicieuses entreprises, prononcer en sang face de moi. Sauf l'expression de leur physionomie qui n'était pas la même, ces deux misérables se ressemblaient tellement que je les regardais tout aussitôt comme frères. Jack était le plus propre et le mieux mis des deux. J'admets ceci dès le début. C'est peut-être un de mes défauts de toujours pousser la justice et l'impartialité jusqu'à leur dernière limite. Je ne suis pas un pharisien, moi, et qu'on le vice à des circonstances atténuantes, je demande qu'on rende justice au vice. Oui, oui, de manière ou d'autre, rendons au vice ce qui lui revient. Eh bien, Jack, comment va l'affaire? Dit Mr. Jay. Ne le lisez-vous pas sur mon visage? Dit Jack. Tout retard est à présent périlleux. Finissons-en avec des anxiétés intolérables et après demain matin, jouons le tout pour le tout. Aussitôt que cela, s'écria Mr. Jay d'un air étonné. Enfin, si vous êtes prêt, je le suis aussi. Mais Jack, je me demande si l'autre personne est prête. En êtes-vous bien sûr? Il sourit en disant cela, un affreux sourire, et emphatiquement appuya sur ces 2 mots « l'autre personne ». Il y a évidemment un 3e misérable, quelque désespéré coquin mêlé à l'affaire. « Venez nous trouver demain, » dit Jack, « vous en jugerez par vous-même. Soyez dans Regent's Park à 11 heures du matin et guettez-nous au coin d'Avenue Road. » « J'y serai, » dit Mr. Jay. « Acceptez-vous une goutte de grog? Pourquoi vous levez? Vous ne partez pas encore. » « Si, je m'en vais, » dit Jack. « Le fait est que je suis si agité que je ne puis rester 5 minutes de suite à la même place. Quelque ridicule que la chose puisse vous paraître, je suis en proie à une inquiétude nerveuse qui ne me quitte plus. Je ne puis m'empêcher de craindre qu'au dernier moment nous ne soyons découverts. Je prendrai volontiers pour un espion tout homme qui, dans la rue, me regarde attentivement. » À ces mots, les jambes me manquèrent. Il me fallut toute ma force de caractère pour me maintenir à mon observatoire. « Quelle absurdité ! » s'écria Mr. Jay avec toute l'effronterie d'un scélérat endurci dans le crime. « Si nous avons pu garder le secret jusqu'à présent, nous saurons bien le garder jusqu'à la fin. Buvez une goutte d'eau-de-vie, et vous en serez aussi convaincu que je le suis moi-même. » Jack refusa toute espèce de boisson et persista dans ses idées de départ. « Il faut que j'essaie de l'effet d'une bonne course, » dit-il. « N'oubliez pas, demain matin à 11 heures, au coin d'Avenue Road, Regent's Park. » Il s'éloigna là-dessus, tandis que son pendard de frère riait à s'en tenir les côtes et reprenait sa pipe de terre, objet de mon dégoût le plus prononcé. Je m'assis sur le bord de mon lit, où positivement je tremblais d'émotion. Il est évident pour moi que les billets de banque n'ont pas encore été changés. Et je puis ajouter que c'était également l'opinion du sergent Bulmer, lorsqu'il remit l'affaire en mes mains. Quelle est donc la conclusion toute naturelle à tirer de la conversation que je viens de vous transmettre ? C'est que les complices se réunissent demain pour se partager le produit du vol et pour s'entendre sur le moyen le plus sûr de changer les billets dès le lendemain matin. Mr. Jay, sans aucun doute, est le plus coupable de l'affaire et ceci même de le conduire à braver le plus grand risque. C'est lui, je le parierai, qui changera le billet de 50 livres. Ma mission sera donc de le suivre. À demain, dans Regent's Park, je ferai de mon mieux pour entendre ce qui s'y dira. En supposant qu'un nouveau rendez-vous soit arrangé pour après-demain, il va sans dire que je m'y rendrai. Cela étant, j'aurai besoin de 2 personnes compétentes, dans le cas où les 3 coquins se sépareraient après leur réunion, pour suivre les 2 autres coupables. Il va sans le dire également que si les misérables s'en vont ensemble, je tiendrai en réserve mes subordonnés. Ambitieux par nature, je désire, si c'est possible, garder pour moi seul tout l'honneur de cette affaire. J'ai à vous remercier de l'envoi immédiat de mes 2 subordonnés, gens dont la capacité par malheur ne me paraît pas très bien établie, mais je serai toujours là pour les guider. La première chose à faire ce matin était naturellement de mettre Mr. et Mrs. Yachtman au courant de ce qui s'était passé, afin de leur expliquer la présence des 2 étrangers. Mr. Yachtman, qui entre nous est un pauvre homme, se contenta de hocher la tête. Mrs. Yachtman, cette femme supérieure, me gratifia d'un charmant regard d'intelligence. « Oh, Mr. Sharpin, dit-elle, je suis si contrarié de voir ces 2 hommes. En réclamant leur aide, ne semblez-vous pas douter du succès ?» Je l'ai regardé en clignant d'une certaine façon qu'elle veut bien tolérer, et je lui ai répondu, volontiers facétieux, qu'elle était sous l'influence d'une erreur légère. « C'est justement, madame, parce que je suis certain du succès, ajoutai-je tout haut, que je les ai mandés près de moi. Je suis décidé à retrouver cet argent, non seulement pour moi-même, mais pour Mr. Yachtman et pour vous. » J'insistai beaucoup sur ces derniers mots. « Oh, Mr. Sharpin !» me reprit-elle avec une rougeur céleste, puis elle baissa les yeux vers son ouvrage. « Il me semble que je pourrais aller avec cette femme jusqu'au bout du monde, si Mr. Yachtman voulait bien, tant seulement décéder un peu. » J'envoyai mes 2 subordonnés attendre mon loisir dans Regent's Park. Une demi-heure plus tard, je m'y rendais moi-même sur les pas de Mr. Jay. Les 2 complices étaient exacts au rendez-vous. Je rougis en l'écrivant, mais il est néanmoins indispensable de constater ceci. Le 3e misérable, le désespéré coquin de mon dernier rapport, ou, si vous l'aimez mieux, la mystérieuse autre personne de la conversation des 2 frères, est une femme, une jolie femme. Je me suis longtemps refusé à cette idée que le beau sexe est invariablement mêlé à tout ce qui arrive de mal en ce monde. Mais après l'expérience de ce matin, je ne puis m'empêcher d'en arriver à cette triste conclusion. Je renonce donc à défendre le sexe. Je l'abandonne en masse, à l'exception de Mrs. Yachtman. L'homme appelé Jack offrit son bras à cet inconnu. Mr. Jay se plaça de l'autre côté. Tous 3 commencèrent à se promener sous les arbres. Je suis désolé d'ajouter qu'il me fut impossible de les suivre d'assez près pour entendre leur conversation. Je pus seulement conjecturer, d'après leur physionomie et leurs gestes, qu'ils parlaient tous les 3, avec une extraordinaire vivacité d'un sujet qui les préoccupait vivement. Au bout d'un quart d'heure ainsi employé, ils firent subitement volte-face pour revenir sur leurs pas. Ma prise d'esprit ne m'abandonna point dans cette extrémité. Je fis signe à mes subordonnés de continuer leur route d'un air dégagé, tandis que je me glissais adroitement derrière un tronc d'arbre. Comme ils passaient à côté de moi, j'entendis Jack dire à Mr. Jay « C'est convenu, demain matin, à 10h30, et n'oublie pas de venir en fiacre. Il vaut mieux ne pas courir la chance d'en prendre un dans ce quartier-ci. » Mr. Jay répondit quelques mots que je n'entendis pas, et serrant les mains avec une audacieuse cordialité qui me fit mal au cœur, ils revinrent à leur point de départ. Là, ils se séparèrent. Je suivis Mr. Jay. Mes agents eurent à l'égard des 2 autres la même attention délicate. Au lieu de me ramener à Rutherford Street, Mr. Jay me conduisit dans le Strand et entra, une fois là, dans une maison de mauvaise apparence. D'après l'inscription placée sur la porte, ce devait être un bureau de journal, mais il avait bien plutôt l'air d'un réceptacle d'objets volés. Après quelques minutes, il en sortit, sifflotant la main dans son gousset. D'autres que moi l'auraient arrêté sur le champ. Mais je me souvins qu'il fallait aussi mettre la main sur ses deux complices et qu'il était essentiel pour cela de n'apporter aucun obstacle au rendez-vous du lendemain. Il me semble qu'un pareil sang-froid dans des circonstances aussi difficiles doit être rare chez un agent novice dont la réputation est encore à faire. De la maison suspecte, Mr. Jay se rendit à un cabinet de lecture où il parcourut les journaux en fumant un cigare. Du cabinet de lecture, il gagna, toujours flânant, la taverne de la veille, où il mangea ses côtelettes. Je flânais comme lui, et dans le même établissement, je pris le même repas. À l'issue de son dîner, il rentra chez lui. À l'issue du mien, je rentrai chez moi. Il eut sommeil de bonne heure et se coucha. Aussitôt que je l'entendis ronfler, le sommeil me prit et je me couchai. Le lendemain matin, de bonne heure, mes deux agents vinrent me faire leur rapport. Ils avaient vu l'homme appelé Jack reconduire sa compagne jusqu'à la porte d'une maison de bonne apparence située aux environs de Regent's Park. Une fois seul, il avait pris la première rue à droite qui conduisait dans un faubourg principalement habité par de petits marchands. Il s'arrêta devant une porte basse qu'il ouvrit avec sa clé. Puis il se glissa dans la maison, mais non sans avoir jeté un regard de méfiance du côté de mes deux hommes qui vaguaient sur le trottoir opposé. Là se bornaient tous les renseignements qu'ils eussent à me communiquer. Je les retins dans ma chambre pour le cas où j'aurais besoin d'eux, et je grimpai à mon observatoire afin de savoir ce que devenait Mr. Jay. Il s'habillait et prenait beaucoup de peine pour donner meilleure tournure à son extérieur débraillé. C'est justement là ce que j'avais prévu. Un vagabond comme Mr. Jay sait combien il est nécessaire lorsqu'on va changer un billet de banque volée de se donner des dehors respectables. À 10h05, il avait enfin achevé de brosser son chapeau et de nettoyer, avec de la mie de pain, ses gants d'une propreté douteuse. À 10h10, il était dans la rue, se dirigeant vers la plus prochaine station de fiacre et suivi par nous de plus près qu'il ne pensait. Il prit une voiture, nous montâmes dans une autre. Je n'avais pu saisir la veille le nom de l'endroit où il devait se retrouver, mais je m'aperçus au bout de peu d'instants que nous prenions la route si fréquentée qui mène à Abner Road. La voiture de Mr. Jay entra lentement dans le parc. Je fis arrêter la mienne à la porte et continuai de le suivre à pied, afin de ne pas éveiller les soupçons. Au même moment, je vis la voiture s'arrêter et les deux complices venir vers elle à travers les arbres. Ils y montèrent et le cab alors rebroussa chemin. Je revins en courant vers mon fiacre et j'ordonnai au cocher de se laisser dépasser de manière à les suivre. Cet homme obéit à mes instructions, mais d'une façon si maladroite qu'il éveilla leur méfiance. Nous trottions derrière eux depuis environ 3 minutes, retournant par où nous étions venus, lorsque je me penchai par la portière pour vérifier de combien nous étions devancés. Je les vis alors penchés hors de leur cab, braqués sur moi des yeux passablement inquiets. Je retombai à ma place, trempé d'une sueur froide. Ce détail n'a rien de très noble, mais je ne saurais mieux rendre les sensations que j'éprouvais en ce moment critique. « Nous sommes découverts, » dis-je faiblement à mes subordonnés. Ils me regardèrent d'un air ébahi. Je passai subitement des abîmes du désespoir au comble de l'indignation. « C'est la faute du cocher, » leur dis-je avec beaucoup de dignité. « Descendez l'un ou l'autre et administrez-lui une vigoureuse bourrade. » Au lieu de m'obéir, les chefs ne doivent pas ignorer cette insubordination, ils se mirent tous deux à la portière. Alors que je me préparais à les en arracher, ils s'étaient redressés tous deux, et avant que j'eusse pu leur exprimer mon vif déplaisir, « Regardez donc, monsieur, » me dirent-ils en riant. Je regardais. La voiture que nous suivions s'était arrêtée. Où ? À la porte d'une église. Je ne sais quelle impression aurait produit cette découverte sur le commun des hommes, mais ayant moi-même des principes religieux très arrêtés, je fus saisi d'horreur. J'ai souvent lu des histoires qui montrent jusqu'où peut aller l'absence des bons principes chez ces sortes de gens. Mais je n'avais pas encore entendu parler de 3 voleurs se réfugiant dans une église pour échapper aux poursuites. J'estime que cette audace sacrilège est sans exemple dans les annales du crime. Je fronçai le sourcil de façon à mettre un terme à la gaieté déplacée de mes deux subordonnés. Il était facile de voir ce qui se passait dans ses intelligences obtuses. Si je n'avais consulté que les apparences, voyant entrer deux hommes et une femme en habit de fête dans une église, un jour de la semaine et à 11 heures du matin, j'aurais pu en tirer la même conclusion ridicule à laquelle mes agents étaient arrivés. Mais de trompeuses probabilités n'en imposent pas à des hommes tels que moi. J'entrai dans l'église, suivi de l'un de mes hommes. Je laissai l'autre en faction à la porte de la sacristie. Qu'on essaie donc de mystifier votre serviteur Matthew Sharpin. Nous grimpâmes jusque dans l'orgue par les petits escaliers latéraux. Ils étaient là tous les trois, tranquillement installés dans un des bancs de la nef. Oui, certes, et si incroyable que vous paraisse la chose, dans un des bancs de la nef, les trois complices étaient assis. Avant que j'eusse pu prendre mon parti, un prêtre se montra, revêtu du costume sacerdotal et suivi d'un enfant de cœur. La tête me tourna. Mes regards se troublèrent. Mille sombres récits de vols commis dans les temples me revinrent à la mémoire. Je tremblais pour le digne homme et même pour son innocent acolyte. Le prêtre se place derrière la balustrade de l'autel, les trois mécréants s'approchent, il commence à lire. « Quoi ? Me demanderez-vous » Je réponds sans hésiter. « Les premières prières de la messe du mariage. » L'un de mes hommes eut l'audace de me regarder alors, feignant d'avaler son mouchoir pour étouffer un éclat de rire. Je ne lui accordai aucune attention. Une fois assuré que Jack était le marié, tandis que Jay suppliait le père de la jeune fille, je quittai l'église, escorté de mes agents. Bien des gens à ma place seraient peut-être troublés, s'imaginant avoir commis une grosse bévue. Je n'éprouvais, quant à moi, rien de semblable, et ne baissais pas d'un seul cran dans ma propre estime. Même à présent, même au bout de 3 heures, je me trouve toujours calme, toujours plein d'espoir. Aussitôt sorti de l'église, je fis connaître à mes hommes l'intention, bien arrêtée où j'étais, de continuer à suivre l'autre voiture, malgré tout ce qui s'était passé. L'un d'eux eut l'impertinence de me poser cette question. « Pourriez-vous, monsieur, nous renseigner sur l'objet de vos poursuites? S'agit-il d'argent volé ou de femmes détournées? Nous aimerions fort à le savoir. » Son vulgaire compagnon encouragea par un gros rire cette plaisanterie malséante. Ils méritent tous les deux une réprimande officielle et j'espère bien qu'elle ne manquera ni à l'un ni à l'autre. Lorsque la cérémonie fut terminée, mes trois individus remontèrent dans leur fiacre, tandis que notre voiture, cachée derrière un angle de l'église, de façon qu'ils ne pussent soupçonner sa présence, marchait de plus belle sur leurs traces. Ils nous conduisirent à la station du South Western Railway. Les nouveaux mariés prirent des places pour Richmond, payant leur billet avec une pièce d'or, et me privant ainsi du plaisir de les arrêter, ce que j'aurais certainement fait s'ils eussent exhibé un billet de banque. Ils se séparèrent de Mr. Jay en lui disant « N'oubliez pas l'adresse, 14 Babylon Terrace. Vous dînez à la maison, d'aujourd'hui en 8. » Mr. Jay accepta l'invitation, ajoutant d'un ton badin qu'il allait se hâter de rentrer chez lui afin de remplacer ses beaux habits par des guenilles et de se mettre à l'aise pour le reste du jour. Je dois ajouter que je l'ai vu rentrer et ressortir ensuite aussi confortablement malpropre que l'avait annoncé sa honteuse prédiction. Voilà où en est l'affaire, que je suppose à sa première phase. Je devine, et de reste, ce que les personnes sans cervelle diront de ma manière d'agir jusqu'à ce moment. Elles prétendront que j'ai fait fausse route dès le début, et de la manière la plus absurde. Selon elles, les conversations suspectes que j'ai entendues n'ont eu d'autre objet que la réussite d'un mariage clandestin. À l'appui de leurs assertions, elles invoqueront les faits accomplis dans l'église comme autant de preuves irrécusables. Laissons-les dire. Je ne conteste rien. Je demande seulement à poser une question, dictée par une sage expérience des choses de ce monde et à laquelle mes adversaires les plus opiniâtres ne répondront pas, je crois, très facilement. Le fait du mariage, une fois admis, quelle preuve ceci vous fournit-il en faveur des trois personnes mêlées à cette transaction frauduleuse? Aucune. Mes soupçons, au contraire, s'aggravent à l'endroit de Mr. Jay et de ses complices, car je trouve là le motif réel du vol. Un monsieur qui va passer sa lune de miel à Richmond a certainement besoin d'argent. Et il en est de même d'un monsieur qui a des dettes chez tous ses fournisseurs. Serait-ce là une supposition injuste? Au nom de la morale outragée, je le nie énergiquement. Ces hommes se sont concertés pour escamoter frauduleusement une femme. Qui les empêche de s'être entendus pour voler des billets de banque? Soutenu par la logique d'une vertu rigide, je défie le vice et ses sophismes de me faire quitter, fût-ce d'une seule ligne, la route que je me suis tracée. Et puisqu'il est question de vertu, je puis ajouter que j'ai présenté l'affaire, sous ce point de vue, à Mr. et Mrs. Yatman. Cette femme charmante, cette femme accomplie, eut d'abord quelque peine à suivre un raisonnement aussi serré. Ma franchise me force d'ajouter qu'elle hocha la tête en pleurant et joignit ses lamentations prématurées à celles de son mari. Mais une explication quelque peu détaillée de ma part et l'attention qu'elle mit à l'écouter suffirent pour la faire changer d'opinion. Elle convient maintenant avec moi que rien dans ce mariage inattendu ne contribue à prouver l'innocence de Mr. Jay, du Sieur Jack ou de la jeune femme enlevée, cette effrontée drôlesse, comme l'appelle ma belle amie. Du reste, ceci n'est rien. Il est plus important de vous apprendre que Mrs. Yatman ne m'a pas retiré sa confiance et que son mari a promis de l'imiter en s'efforçant d'espérer encore. Me voilà donc, grâce à la nouvelle tournure que les choses ont prise, obligé d'attendre les ordres de mes supérieurs. Je les attends avec l'assurance d'un homme qui se sent deux cordes à son arc. En suivant les trois complices tandis qu'ils se rendaient de l'église à la gare, j'avais deux motifs. Je les escortais premièrement pour le compte de l'administration, puisque je restais intimement convaincu de leur culpabilité. Secondement, je tenais, pour mon propre compte, à ne point perdre leur piste, désirant surprendre le lieu de refuge des deux jeunes gens, afin d'en tirer au besoin un renseignement que la famille de la jeune personne pourra bien évaluer assez haut. Quoi qu'il arrive, je puis dès lors me féliciter de n'avoir pas perdu mon temps. Si mes chefs approuvent ma conduite, j'ai un plan tout prêt pour l'avenir. Si au contraire mes chefs me blâment, je me rendrai à la maison de Regent's Park pour y négocier mes précieuses indications. Ainsi, de toute façon, cette affaire remplit ma bourse et me donne la réputation d'un homme remarquablement subtil. Je n'ai plus que ceci à dire. Si un individu quelconque osait affirmer que Mr. Jay et ses complices sont innocents de la soustraction des billets de banque, je défie à mon tour cet individu, fût-il l'inspecteur en chef Thickstone lui-même, de nommer l'individu par qui a été commis le vol de Rutherford Street, Soho. Fort de cette conclusion, j'ai l'honneur d'être votre très humble serviteur, Matthew Sharpin. L'inspecteur en chef Thickstone au sergent Bulmer. Birmingham, 9 juillet. Sergent Bulmer. Ce prétentieux des tourneaux, Mr. Matthew Sharpin, a complètement embrouillé l'affaire de Rutherford Street, ainsi du reste que je l'avais prévu. Obligé de rester à mon poste, c'est à vous que je m'adresse pour remettre la poursuite en bon chemin. Je vous envoie, si inclus, l'insipide bavardage que cet imbécile de Sharpin ose appeler un rapport. Lisez-le, et lorsque vous aurez pris connaissance de toutes ces niaiseries, je pense que vous vous accorderez avec moi pour regarder comme certain que le sot personnage a cherché partout le voleur, sauf à l'endroit où il l'aurait infailliblement découvert. 5 minutes vous suffiront maintenant pour vous emparer du coupable. Finissez-en donc le plus tôt possible et envoyez-moi ici votre rapport. Dites à Mr. Sharpin que, jusqu'à nouvel ordre, il doit se considérer comme suspendu de ses fonctions et, croyez-moi, votre tout dévoué, F.R. Thickstone. Le sergent Bulmer à l'inspecteur en chef Thickstone, Londres, 10 juillet. Inspecteur Thickstone, votre lettre et le rapport me sont régulièrement parvenus. Les sages, dit-on, peuvent toujours apprendre quelque chose, même d'un fou. Lorsque j'eus terminé la lecture du stupide compte-rendu rédigé par le sieur Sharpin, je vis exactement, comme vous l'aviez prévu, ma route toute tracée pour mener à bien l'affaire de Rutherford Street. Une demi-heure plus tard, j'étais dans la maison. La première personne que j'y rencontrai fut mon admirable collègue. « Venez-vous m'aider ?» me dit-il. « Pas précisément, » lui répondis-je. « Je viens vous prévenir que vous êtes provisoirement suspendu de vos fonctions. »« À merveille !» reprit-il, sans rien perdre évidemment de l'estime qu'il s'est vouée. « Je pensais bien que vous seriez jaloux de moi. Rien de plus naturel et je ne vous en blâme pas. Donnez-vous la peine et faites comme chez vous. Je m'en vais régler une petite affaire pour mon propre compte dans les environs de Regent's Park. Bonne chance, sergent. Nous vous jugerons à l'œuvre. » Ce que disant, il partit. Je ne lui demandai rien de mieux. Aussitôt que la servante eut fermé la porte derrière mon homme, je la priai de prévenir son maître que je désirais le voir un moment en particulier. Elle m'introduisit dans l'arrière-boutique où je trouvais Mr. Yatman, qui restait seul, lisait son journal. « Je viens, monsieur, lui dis-je, pour cette affaire de vol. » Il me coupa la parole d'un air grognon. « Car c'est un assez triste homme, faible de caractère et digne de porter des jupons. « Oui, oui, je sais, » dit-il. « Vous venez pour m'apprendre que votre agent, cet homme si faible et si retors, auquel les murs sont redevables de tant de trous, s'est grossièrement mépris et qu'il a perdu en définitive la trace de mon voleur. « Oui, monsieur, » lui dis-je. « C'est en effet là une des choses que j'avais à vous dire. Mais j'ai encore une autre communication à vous faire. « Pouvez-vous m'indiquer le voleur ?» répondit-il, plus hargneux que jamais. « Oui, monsieur, » dis-je. « Je crois que je le puis. » Il posa son journal et, me regardant avec une anxiété craintive, « Ce n'est pas mon commis, » reprit-il. « J'espère pour cet homme que ce n'est pas lui. »« Cherchez encore, monsieur, » continuai-je avec un sentiment de pitié. « Cette paresseuse, c'est être sans soin de servante. »« Elle est paresseuse, monsieur, elle est désordonnée. » « Les renseignements que j'ai pris sur elle ne me l'ont pas laissé ignorer, mais le voleur n'est pas cette fille. « Qui est-ce alors, au nom de Dieu ?» me dit-il. « Voulez-vous, s'il vous plaît, lui demandai-je, vous préparer à une surprise fort désagréable. « Voulez-vous aussi, pour le cas où l'impatience vous gagnerait, me permettre de vous faire observer que de nous deux, je suis le plus robuste et que si vous vous laissez aller à lever la main sur moi, je pourrais vous blesser sans le vouloir par pur instinct de défense. » Il devint pâle comme la mort et recula son siège à 2 ou 3 pieds de moi. « Vous m'avez demandé, monsieur, poursuivis-je, de vous désigner la personne qui a pris votre argent. Si vous insistez pour que je vous réponde, j'insiste, » interrompit-il d'une voix faible. « Qui l'a pris ?»« C'est votre femme, » lui dis-je avec le plus grand calme, mais en même temps du ton le plus positif. Il sauta hors de sa chaise comme si je l'avais frappé d'un coup de couteau, et son poing s'abattit sur la table si lourdement que le bois en craqua de toutes parts. « Doucement, monsieur, » lui dis-je, « ce n'est pas la colère où vous vous mettrez qui vous fera découvrir la vérité. »« Mensonge !» s'écria-t-il avec un autre coup de poing sur la table. « Ignoble, abominable mensonge, comment osez-vous ? » Il s'arrêta, retomba sur son fauteuil, et promenant autour de lui les regards ébahis, finit par éclater en sanglots. Quand vous aurez recouvré un peu de bon sens, lui dis-je, nul doute que vous ne soyez assez gentleman pour vous excuser du langage que vous venez d'employer. D'ici là, veuillez, si vous pouvez, prêter l'oreille à quelques paroles d'explication. Mr. Sharpin a fait passer à notre inspecteur un rapport, le plus extraordinaire et le plus ridicule du monde, rapport où il rend compte non seulement de ses faits et gestes, parfaitement absurdes en eux-mêmes, mais encore des faits et gestes de Mrs. Yatman. Un pareil document, dans la plupart des circonstances, n'eût été jugé bon qu'à mettre au panier. Mais dans l'espèce qui nous occupe, il se trouve que le paquet de sottises assorti par Mr. Sharpin conduit à une conclusion que le naïf écrivain s'est bien gardé de jamais dégager. Je suis si bien certain de ne pas me tromper à cet égard que je consens à perdre ma place si nous n'arrivons à découvrir que Mrs. Yatman, abusant de la niaiserie et des prétentions de ce jeune homme, a fait tout au monde pour se mettre à couvert en dirigeant à dessein ses soupçons sur les personnes les plus étrangères au crime. Je vous dis ceci en toute confiance et j'irai même un peu plus loin. J'irai jusqu'à exprimer nettement mon opinion sur les motifs qui ont poussé Mrs. Yatman à dérober cet argent et sur l'emploi qu'elle en a fait, tout au moins pour une partie. Personne ne peut, monsieur, jeter les yeux sur cette dame sans être frappé du goût et de l'élégance qui règne dans ses ajustements. Au moment où je prononçais ces dernières paroles, le pauvre homme sembla recouvrer la faculté de s'exprimer. Il m'interrompit tout net avec autant de hauteur que si, au lieu d'être un simple papetier, il eût pu mettre la couronne ducale sur ses armoiries. « Cherchez, disait-il, une autre justification pour les calomnies que vous n'avez pas honte d'articuler contre ma femme. J'ai chez moi, au moment où je vous parle, parmi mes factures acquittées, le compte de sa modiste pour l'année dernière. « Pardon, monsieur, répondis-je, mais ceci ne prouve rien. » Les modistes, s'il faut que je vous l'apprenne, se livrent à un méchant petit trafic dont la police fait l'expérience presque quotidienne. Une femme mariée qui veut recourir à ce subterfuge peut toujours avoir 2 comptes chez sa couturière. L'un, que son mari boit et acquitte, l'autre, dont elle a seule connaissance où l'on enregistre les articles excessifs secrètement payés par la femme, petit à petit, au fur et à mesure des ressources qu'elle peut se faire. Selon l'usage le plus fréquent, ces paiements graduels sont pris denier par denier sur l'argent du ménage. Je soupçonne en ce qui vous concerne qu'ils n'auront pas eu lieu. On aura menacé de poursuivre. Mrs. Yatman, qui connaît vos revers de fortune, s'est vue mise au pied du mur, et c'est ainsi qu'elle a été amenée à prélever sur votre caisse de quoi payer son compte particulier.
« Je ne croirai jamais cela, » dit-il. « Vous n'avez pas dit un mot qui ne soit une abominable insulte pour ma femme et pour moi. »
« Vous connaissez-vous assez de caractère, monsieur ? » repris-je, l'arrêtant court afin d'épargner du temps et des paroles. « Êtes-vous assez homme pour prendre cette facture acquittée dont vous me parliez tout à l'heure et venir trouver avec moi, séance tenante, la modiste employée par Mrs. Yatman ?»
Cette apostrophe directe le fit rougir. Il alla aussitôt chercher la facture et mit son chapeau.
Je tirai de mon portefeuille la liste renfermant les numéros des billets perdus et nous sortîmes ensemble à l'instant même.
Arrivé chez la modiste, c'était, comme je m'y attendais, une de ces bonnes maisons du West End, connues pour l'élévation de leurs prix, je demandai une entrevue particulière à la maîtresse de maison sous prétexte d'affaires graves. Plus d'une fois, nous nous étions trouvés en rapport, elle et moi, pour des investigations du même ordre. À peine m'eut-elle reconnu qu'elle envoya chercher son mari. Je leur dis que c'était Mr. Yatman et de quels renseignements nous avions besoin.
« Tout ceci est strictement entre nous ?» demanda le mari, auquel je répondis affirmativement par un signe de tête.
« Et on nous gardera le secret ?» reprit la femme qui reçut la même promesse muette.
« Voyez-vous, ma chère, quelque inconvénient à ce que M. l'agent puisse jeter un coup d'œil sur vos livres ?»«
Pas le moins du monde, cher ami, du moment où vous y consentez vous-même. »
Pendant ce court entretien, Mr. Yatman demeurait assis, véritable image de la surprise et du désespoir, fort peu à sa place dans une conférence aussi courtoise qu'était la nôtre. On apportait les livres, et il suffit d'une minute d'examen, consacrée aux pages où figure le nom de Mrs. Yatman, pour établir surabondamment que je ne m'étais pas trompé d'une syllabe. D'un côté, sur un de ses registres, était le compte du mari que Mr. Yatman avait réglé. De l'autre, sur un livre à part, le compte secret également acquitté. Le paiement était daté du jour même qui avait suivi la disparition du coffret au billet. Le compte particulier sudit montait à la somme de 175 livres sterling, shillings non compris, et il embrassait une période de 3 années. Pas un seul acompte n'avait été payé pendant ce laps de temps. Au-dessous de la dernière ligne se trouvait une annotation ainsi rédigée, 3e lettre de rappel, 23 juin. Posant le doigt sur cette mention révélatrice, je demandai à la modiste s'il s'agissait bien du mois de juin dernier.
« Oui, » répondit-elle, et maintenant elle regrettait d'avoir à dire que la lettre renfermait certaines menaces relatives aux poursuites qu'on se trouverait obligé d'exercer.
« Je croyais, lui dis-je, que vous accordiez à vos bonnes pratiques un crédit de plus de 3 ans. »
Sur quoi la modiste, jetant un regard du côté de Mr. Yatman, me répondit à l'oreille.
« En général, oui. Mais non quand le mari d'une dame a fait de mauvaises affaires. »
Tout en parlant, elle me montrait le compte, les articles inscrits à partir du moment où les embarras pécuniaires de Mr. Yatman avaient commencé, n'attestaient pas moins d'extravagance, pour une personne placée comme l'était sa femme, que les articles inscrits pendant l'année antérieure à cette époque. Si la dame avait retranché quelque chose à ses dépenses, ce n'était pas très certainement sa toilette qui avait pu en souffrir. Il n'y avait plus qu'à examiner, et encore pour la forme, le livre de caisse. La somme payée l'avait été en billets, dont les chiffres et les numéros se rapportaient exactement à ceux qui étaient inscrits sur ma liste. Ceci fait, je jugeai à propos d'emmener immédiatement Mr. Yatman. Il était dans un état si pitoyable que j'appelai un fiacre et accompagnai le pauvre homme jusque chez lui. Tout d'abord, il se démena et pleura comme un enfant. Mais je le calmai bientôt, et je lui dois cette justice d'ajouter qu'au moment où le cab s'arrêta devant la porte, il s'excusa, dans les meilleurs termes, des excès de langage auxquels il s'était abandonné. Par manière de retour, je tâchai de lui donner quelques bons conseils sur ce qu'il avait à faire ultérieurement pour mettre sur un bon pied son autorité conjugale. Mais il ne prit pas garde à ce que je lui disais et monta son escalier en murmurant le mot de séparation. Il y a chance à peu près égale pour que Mrs. Yatman, femme d'esprit qu'elle est, se tire ou ne se tire point de l'embarras dans lequel l'on mise ses dépenses insensées. Je gagerai, quant à moi, qu'elle aura recours aux attaques de nerfs, aux cris les plus déchirants, et qu'elle obtiendra ainsi le pardon de son mari complètement terrifié. Mais ce ne sont pas là nos affaires. Pour tout ce qui engageait notre responsabilité, le problème est résolu maintenant, et du moment qu'il en est ainsi, je ne vois pas dans quel but le présent rapport serait poussé plus loin. C'est pourquoi je demeure, sans rien de plus, votre très obéissant et zélé serviteur,
Thomas Bulmer. P.S. Je dois ajouter qu'au moment où je quittais Rutherford Street, je rencontrais Mr. Matthew Sharpin, qui venait y faire ses paquets.
« Voyez un peu, » disait-il, se frottant les mains et très animé. « Je suis allé chez les parents de nos jeunes amoureux, et à peine leur avais-je fait connaître l'affaire qui m'amenait, on m'a chassé un grand coup de pied. » Cette brutalité avait heureusement deux témoins et doit me rapporter 100 livres sterling comme un liard.
« Je vous félicite de votre bonne chance, lui dis-je.
« Merci, » répliqua-t-il.
« Quand pourrais-je vous féliciter à mon tour d'avoir mis la main sur le voleur ?»«
Aussitôt que vous voudrez, car le voleur est découvert. »
« Je m'y attendais bien, » reprend-il. « J'accomplis toute la besogne, vous arrivez au bon moment et vous en recueillez tout l'honneur.
« Mr. Jay, sans aucun doute.
« Non, lui dis-je.
« Qui donc ? » demanda-t-il.
« Demandez à Mrs. Yatman, elle vous attend pour vous le dire.
« Fort bien.
« J'aime bien mieux l'apprendre de cette charmante femme que de vous, » répliqua-t-il, et il entra dans la maison avec un empressement des plus comiques.
« Que pensez-vous de tout ceci, cher inspecteur ?
Aimeriez-vous être à la place de Mr. Sharpin ?
Quant à moi, je vous le garantis, cette fantaisie n'est pas près de revenir. »
L'inspecteur Thickstone à Mr. Matthew Sharpin, 12 juillet.
Monsieur, le sergent Bulmer vous a déjà dit que vous deviez vous considérer comme suspendu de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. J'ai maintenant mission d'ajouter qu'on refuse positivement vos services comme membre de la police de sûreté. Vous voudrez bien tenir cette lettre pour un congé officiel donné en bonne forme. Je puis vous informer, entre nous, que votre rejet n'est pas de nature à endommager le moins du monde la bonne réputation dont vous pouvez jouir. Il implique simplement que vous n'avez pas l'esprit tout à fait assez subtil pour une besogne comme la nôtre. Si nous avions absolument besoin d'une nouvelle recrue, nous vous préférerions et de beaucoup, Mrs. Yatman. Votre obéissant serviteur, Francis Thickstone.
Note sur la correspondance qui précède, ajoutée par Mr. Thickstone.
L'inspecteur n'est pas à même de joindre à la dernière de ses lettres le moindre commentaire officiel.
On a découvert que Mr. Matthew Sharpin a quitté la maison de Rutherford Street 5 minutes après l'entretien qu'il avait eu sur le seuil de cette maison avec le sergent Bulmer. Son attitude exprimait au plus haut degré la surprise et la terreur. Sur sa joue gauche se remarquait une éclatante plaque rouge qui paraissait résulter de ce qu'on appelle vulgairement une giroflée à 5 feuilles. Le marchand devant lequel il passait l'a aussi entendu se servir, à l'égard de Mrs. Yatman, d'une expression très choquante et il l'a vu serrer les poings par un geste éminemment vindicatif au moment où ce naïf garçon tournait au galop le coin de la rue. Depuis lors, on n'a plus entendu parler de lui et nous conjecturons qu'il a quitté Londres avec le projet d'offrir son précieux concours à la police de province. On a des indications encore moins précises au sujet des relations domestiques de Mr. et Mrs. Yatman, relations si intéressantes à connaître. Nous avons appris pourtant, de la manière la plus positive, que le soir où Mr. Yatman revint de chez la modiste, le médecin de la famille fut mandé en grande hâte. Le pharmacien le plus proche reçut peu après l'ordonnance d'un calmant à préparer pour Mrs. Yatman. Le lendemain, Mr. Yatman acheta du même pharmacien un flacon de sel, et on le vit entrer ensuite au cabinet de lecture pour lui demander un roman de mœurs aristocratiques susceptible de distraire une dame malade. On a inféré de ces circonstances qu'il n'a pas jugé à propos de réaliser ses idées de séparation, idées qui lui ont sans doute paru incompatibles avec l'état actuel présumé où se trouve le système nerveux de cette dame, si essentiellement délicate. Ainsi s'achève Le renard et la poule de Wilkie Collins.